David Guiraud, le député de la France Insoumise, a supprimé hier un tweet faisant référence au manga One Piece utilisé ces dernières semaines pour porter des messages antisémites sur la plateforme X. Nous en parlons avec Stéphane Zibi, les cofondateurs avec Franck Tapiro de la Diaspora Defense Force, DDF si vous préférez, qui se donne pour mission de débusquer et dénoncer ce genre de déviance sur les réseaux sociaux. On écoute Stéphane Zibi, il est au micro de Lucie Gilson.
Le député LFI David Guiraud a publié un tweet hier faisant référence au manga One Piece, dévoyé de son sens originel par des internautes pour publier des messages antisémites. Pour couper court à toute polémique, il a ensuite supprimé ce lundi 1er janvier ce tweet qui faisait référence au Dragon Céleste. Pour en parler avec nous, Stéphane Zibi, spécialiste de la tech et des réseaux sociaux, chroniqueur sur RCJ, et cofondateur avec Franck Tapiro de la DDF, la Diaspora Defense Force. Stéphane Zibi, bonjour.
Bonjour.
Merci de répondre à nos questions. Donc, dans un tweet publié sur X plus tôt ce jour, David Guiraud dit ne vouloir heurter personne. Il a retiré donc le tweet qui fait polémique et il a dit ne vouloir heurter personne. À votre avis, le mal est déjà fait?
Ah oui, le mal est déjà fait, et tant mieux d'ailleurs, parce que bon, il n'a pas été pris par des exactions. Il nous a déjà depuis le 7 octobre, et déjà bien avant, mais encore plus depuis le 7 octobre, parce que ça devient quasiment une obsession pour lui et ses collègues de son parti, de faire des vociférations autour d'Israël et du peuple juif. Là, en l'occurrence, on parle d'un tweet où il a quand même passé pas mal de temps à écrire, parce que vous voyez, c'est pas qu'une petite phrase en réponse ou en réaction, il a réfléchi, il a écrit, il a pris le temps de bien faire la ponctuation, de bien mettre les espaces là où il fallait, les guillemets où il fallait, et donc il a bien écrit. Donc entre le moment, quand vous dites quelque chose dans le feu d'une discussion en privé, bon ok, ça peut être, entre guillemets, excusable. Pareil, dans une réunion publique, on vous êtes un peu mine dans l'ambiance, et peut-être parfois les mots dépasse un peu votre pensée, bon, après, vous pouvez regretter. Là, on parle quand même d'expression publique et écrite sur les réseaux sociaux. Je n'ose imaginer ce qu'il peut imaginer en privé. Parce que là, c'est même une catastrophe ce qu'il exprime dans son tweet, qui a été publié, bien évidemment, mais manque de peau pour lui. Dès qu'il fait quelque chose, les captures d'écran fleurissent et elles sont figées. Et dès qu'il publie quelque chose, peut-être on y viendra un petit peu plus tard sur le signalement. Eh bien, il a fait la chose, il l'a enlevé, il a eu sûrement quelques conseils de ses amis, disant que là, on était à la lisière d'une faute pénale, et il a retiré. Mais quand on retire, c'est trop tard, il a écrit, et c'est figé. Et on sait ce qu'il sait, on sait ce qu'il pense.
Et justement, est-ce une habitude pour les élus d'instrumentaliser les réseaux sociaux au service de leur stratégie politique?
Oui, je vais pas rentrer trop dans leur stratégie, parce que je sais même pas qu'ils s'en ont. On sait pas si c'est un message qui est maladroit ou intentionnel. J'ai envie de dire peu importe. Quand on fait de la politique et qu'on communique sur les réseaux sociaux, la base, c'est de comprendre comment on peut être interprété les messages qui sont postés. C'est-à-dire que quand vous êtes élu de la République, quel que soit le parti, vous avez un devoir d'excellence, de réserve, et vous devez exprimer au mieux les opinions que vous défendez. Mais vous devez faire un petit peu attention, on n'est pas là à poster et à enlever et à retirer juste après. On est quand même sur quelque chose de... On est peut-être dans une cour de récréation. On n'est pas dans quelque chose quand même... Et donc, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, et c'est une petite tendance qui est venue ces dernières années et qui s'est accélérée avec cette histoire depuis le 7 octobre, parce que quand même, nous sommes dans un débat qui est quand même très polarisé, avec des contre et des pour. Et malheureusement, ceux qui sont pour Israël, malheureusement, ils sont majoritairement silencieux. Et ceux qui sont contre, on les entend vociférer très fort, comme s'ils apparaissaient comme une majorité, ce qui est très loin d'être le cas. Et ce qu'il faut, mais simplement, ils utilisent les réseaux sociaux et ils donnent l'impression qu'ils ont, oui, en effet, ils instrumentalisent une bonne fois de temps-là, en pensant qu'ils ont la population avec eux. En fait, c'est une minorité. Mais il faut faire attention à cela, et c'est pour ça que, avec Franck et toute l'équipe de la DDF, on essaye de se battre justement contre le combat de la vérité, parce que la vérité, on pense que c'est ça la vraie valeur. Et dire des conneries, comme, excusez-moi du terme, mais sur les réseaux sociaux comme ils l'ont fait, on ne peut pas les accepter. Je ne sais pas si vos auditeurs sont même au courant de ce qui a été vraiment dit dans ce tweet, mais en gros, il fait référence donc à ce manga qui est One Piece, qui est un manga hyper populaire, et qui, dans ce manga-là, un des contes antagonistes des héros s'appelle les Dragons Célestes, et ce peuple prétend être élu et descendant d'anciens rois, contrôlant donc un gouvernement mondial et en étant globalement abject. Et bah, depuis quelques mois, ce terme dragon Célestes est utilisé pour désigner sur Internet le peuple juif et balancer donc des propos clairement antisémites, pardon, antisémites, plutôt, on dirait. Et franchement, c'est pour moi, je le dis souvent, c'est une façon de, pour moi, c'est le protocole des sages de Sion, mais des temps modernes, hein, en train de lire. C'est-à-dire qu'en gros, on nous voit tout puissants, abjects, horribles, dominant le monde. Bon. Est-ce que c'est quelque chose que l'on fait? Bah, malheureusement, pas, sinon, on n'en croit pas là. Hein.
Alors, comme je l'ai rappelé, ensuite David Guiraud, il a retiré en fait son tweet. Et est-ce que c'est une tentative, selon vous, pour sauver les meubles ou ça s'inscrit dans une stratégie politique pour s'adresser à une partie de son électorat?
Le retrait d'un tweet, c'est sauver les meubles déjà, parce que sinon, il aurait gardé. Par contre, moi, je suis convaincu que là, pour le coup, il a dépassé la ligne jaune et qu'il aura des conséquences de son tweet, parce qu'aujourd'hui, la justice ne peut passer la moindre incitation à la haine anti-juive, et c'est très bien que la justice suive, pour une fois. On pouvait se plaindre avant par le passé de sanctions un peu molles, ou de pas de sanctions parfois, hein, quand des personnes juives étaient assassinées, par exemple. Là, aujourd'hui, quelqu'un qui émet quelque chose sur Twitter, des menaces de mort, comme ça arrivait à Roland Berger-Baclair dernièrement, et la personne a eu 15 mois ferme. Quand quelqu'un a écrit des choses sur TikTok ou je ne sais quoi, elle a de la prison, même avec sursis, mais elle a de la prison avec de la mise à l'épreuve. Aujourd'hui, on ne peut plus dire, on ne peut plus faire des choses parce qu'il y a une DSA. Donc, le Digital Act qui a été mis en place depuis le 25 août dernier, qui oblige les plateformes à agir. On a Pharos qui nous permet de signaler ces choses-là, et donc c'est postes contrevenants. Et c'est le procureur de la République chargé du terrorisme à Nanterre qui avait cette somme de plainte. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a les armes pour pouvoir se battre et ne plus laisser ce type d'exaction verbale sur les réseaux sociaux. Donc, moi, c'était une faute, bien évidemment, de l'avoir écrit. Ils l'ont enlevé, c'était même pas une faute réparée. Non, non, c'est fait, c'est écrit, c'est gravé, et j'espère qu'il en subira quelques conséquences.
Alors, justement, on peut parler des conséquences maintenant. Quelles conséquences va-t-il être confronté là maintenant?
Ah ben là, clairement, ce qu'il a retiré, c'est qu'il a eu quand même des petites alertes auprès de son service, auprès des gens compétents, de ses petits camarades de son parti, disant que potentiellement c'est du pénal. Et donc une faute pénale, c'est donc d'assigner les juifs à, voilà, ça, même s'il fait référence à un manga, donc à une œuvre artistique. Mais voilà. Et donc, en gros, quand on assigne les juifs, etc., qu'il y a une mauvaise interprétation du style dans son tweet, etc., clairement, il y a une faute. Et je pense que vu son passé récent et ses réactions qu'il a pu avoir depuis le 7 octobre, on va dire que pour l'ensemble de son œuvre, cette erreur qu'il a faite de publier ce tweet, bah, il a payé pour l'ensemble de toutes les exactions verbales qu'il a pu avoir, tant dans les médias que sur les réseaux sociaux. Et donc, j'ose espérer que les suites, il y a des plaintes en cours ont été faites. Apparemment, j'ai pas toutes les informations, mais il me semble que un observatoire chargé de ce type de poste, en tout cas anti-juif, il y a des plaintes qui ont été faites. L'OJE de Muriel Melki, je suis certain qu'elle va donner suite également. Je vous dis, je ne dis pas qu'on attendait presque au tournant de faire ces erreurs, mais là, l'erreur a été commise. Il y a une faute pénale, et s'il y a une faute pénale, il y a une inéligibilité qui va être demandé à l'Assemblée nationale, et il devra être interrogé et potentiellement être condamné. En tout cas, c'est plus possible. En gros, ça doit servir d'exemple. Quand on est un élu de la République, on se doit à une certaine réserve et une certaine hauteur. On n'a pas de la hauteur de la part de certains députés. On a de la bassesse systématiquement. Et c'était un des l'exemple malheureusement de ce député-là.
Eh bien, Stéphane Zibi, je vous remercie d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la tech et des réseaux sociaux, chroniqueur sur RCJ et cofondateur avec Franck Tapiro de la DDF, la Diaspora Defense Force.
Ben, merci beaucoup à vous pour votre invitation en tout cas.
Très bonne journée, au revoir.
À très bientôt, au revoir.